Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Les journaux. Billy Ivan Lutumba, la présentation.
Principale nouvelle à la une sur lundi 3 juin à travers le pays, c'est l'éducation avec la passation de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP. En début de ce journal, nous envolons dans différentes villes de la RDC pour découvrir comment les jeunes finalistes ont affronté cette épreuve. De la sécurité lancée à question dans cette édition avec cette force de frappe FARDC MONUSCO imposée sous les rebelles M23 qualifiés des terroristes par Kinshasa, des localités à Kanyabayonga sont rentrées sous contrôle de l'armée congolaise. Annika Mwanyamanase, présidente de la Société congolaise de la pratique sage-femme, invitée de ce journal, parle de la promotion de l'hygiène menstruelle avant la fin de cette édition. Fidèles auditeurs, sous peu, nous vous déroulons les autres contours de l'actualité congolaise de ce lundi. Radio Kapi, toujours à votre service de l'information. Bienvenue et excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Bonsoir. ENAFEP à Kinshasa, le coup d'envoi de cet examen national a été lancé par le ministre provincial de l'éducation, Charles Mboutamountou. La cérémonie s'est déroulée à l'école primaire Mama Sifa à Kinkolé. Comparativement à l'année 2023, les effectifs des candidats ont augmenté de 5%, soit 3% chez les filles, selon le rapport de l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Reportage de Étienne Lissoumbou.
Tout joyeux, les élèves finalistes du cycle primaire se dirigent vers les centres des épreuves. À leur sortie des centres, certains racontent le déroulement de l'examen.
Les examens s'est passé bien. C'est mal bien parce que le jour que nous avions dû voir faire les ENAFEP, j'avais peur.
L'examen était facile. On m'avait donné. C'était dur. Et puis quand j'ai eu, c'était facile. On m'avait demandé seulement les questions. Là où les questions qu'on a enseignées depuis longtemps, depuis la première.
L'inspecteur provincial de l'EPST Kinshasa Plateau souligne les caractères gratuits de cet examen.
Les chefs d'établissement ont observé le mot d'ordre de l'instruction. Que personne ne peut demander quelque chose pour la passation de cette épreuve. À notre niveau provincial, nous avions pris toutes les dispositions utiles.
Ces épreuves de deux jours se clôturent ce mardi.
Les épreuves de l'examen de fin d'études primaires ENAFEP ont été lancées dans tous les centres des sous-divisions de l'EPST de Beni et Oicha Solondi. Quelques absences sont cependant signalées dans différents centres d'examen situés dans les zones en proie aux attaques des ADF, affirme le chef de la sous-division d'Oicha. Une vue globale avec vous, Sadiq Aboubakar.
Au moins 11 500 écoliers finalistes du primaire prennent part à l'examen de fin d'études primaires ENAFEP dans la sous-division de Beni. Ces élèves sont éparpillés dans 36 centres organisés dans la ville. D'après Mathieu Roling, chef de la sous-division de l'EPST Beni, des finalistes venus des écoles du quartier Sayo, victimes des récentes attaques des ADF, sont affectés dans des centres proches de leur quartier de refuge dans la ville. Du côté de la sous-division d'Oicha, une déperdition de 12% des finalistes par rapport au nombre d'inscrits est observée dans les 40 centres de passation d'examen. Enoch Kaviav Moussouba, au chef de la sous-division de l'EPST Oicha, rapporte que ces absences sont enregistrées dans les centres de Mangina, Eringeti, Maimoya et Kainama, zones dans lesquelles les rebelles des ADF ont signé des attaques entre mars et avril dernier. Le centre Moussandaba de Mantumbi, récemment attaqué par des ADF, a été délocalisé à Mbaou, dans le territoire de Beni. De plus, un centre d'examen du territoire d'Irumu en Ituri fonctionne à Eringeti, dans la sous-division d'Oicha, Beni. Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Rendons-nous à présent en Ituri où tous les centres d'examen de fin d'études primaires ENAFEP sont opérationnels malgré la situation sécuritaire précaire dans certaines entités. Selon les autorités scolaires, certains centres ont été délocalisés dans des milieux sécurisés, notamment à la périphérie de la ville de Bounia et dans la chefferie de Banyarikilo dans le territoire des Djougou. Des services de sécurité et des casques bleus de la MONUSCO assurent la sécurité de certains élèves et centres pour le bon déroulement de ces épreuves. Isaac Remoyope.
Le lancement de cette épreuve s'est déroulé au centre de l'école primaire Makimbouda, vers la localité de Chari, à 12 km au nord de Bounia, par le vice-gouverneur de province. Ce centre a accueilli 6 écoles de centre Ndena, qui sont fermées depuis 3 ans suite aux atrocités des groupes armés. Plus de 200 élèves finalistes du primaire ont effectué les déplacements dans ce centre, indique le sous-provède. À Tchabi, à 120 km aussi de Bounia, où les rebelles des ADF sont actifs, cet examen se déroule normalement, en dépit des inquiétudes des leaders communautaires. Ces derniers ont sollicité l'intervention des casques bleus de la MONUSCO pour escorter les élèves des localités de Bouakadi, Boyo, Beru et Sengi au centre de Tchad, à environ 12 km de leur milieu d'origine. Le président des jeunes de cette entité rapporte que ces finalistes sont arrivés dimanche au centre de passation et sont sécurisés par la police et les FARDC. Dans certains centres dans les territoires du Rumu, il y a eu déficit des questionnaires, mais ce problème est résolu, affirment certaines autorités scolaires. Dans d'autres territoires, Djougoumagi, Aru et Mambasa, aucun incident n'est encore enregistré jusque-là. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et NAFEP dans la province éducationnelle de Maniema 1, plus de 34 720 candidats, dont plus ou moins 17 200 fils, passent l'épreuve nationale de fin d'études primaires. Répartis dans 118 centres, ces examens ont été lancés par l'autorité provinciale qui a encouragé ses finalistes du primaire avant de les exhorter à éviter la tricherie. Florence Kizalunga pour plus de détails.
Après les mots d'encouragement des autorités, les finalistes très courageux avec sourire aux lèvres restent sûrs de leur réussite. Suivez-les.
J'ai révisé tout ce que notre maître nous avait appris et j'ai la foi que je vais réussir.
Moi, je n'ai pas peur parce qu'on nous a bien encadré, je vais réussir.
Le Provède recommande un effort personnel par rapport à ces épreuves. Mokito Gaunda.
Chers élèves, l'épreuve que vous allez passer bientôt est l'application des matières apprises par vos enseignants à l'école conformément au programme national. À cet effet, un effort personnel vous est recommandé.
Prenant la parole, l'inspecteur principal provincial intérimaire salue la participation des filles. Moussomba Kimema.
La province éducationnelle de l'EPST Maniema 1, l'ensemble, a réussi à inscrire 34 728 candidats, dont 17 268 filles. Les calculs d'indices de parité nous révèlent le taux équivalent à 0,9, ce qui prouve que le slogan « Toutes les filles à l'école » devient une réalité incontestable au Maniema.
Il est strictement interdit de demander aucun rond aux élèves du primaire. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Nous parlons toujours ENAFEP maintenant dans le Nord Kivu. Ce sont plus de 155 960 candidats, parmi lesquels environ 78 350 filles et plus de 77 600 garçons répartis dans 552 centres, dont un à Kigali au Rwanda, qui participent depuis ce lundi à l'examen national de fin d'études primaires. Ces examens se déroulent dans un contexte sécuritaire particulièrement difficile. Les centres de passation situés dans les zones sous occupation du M23 dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo ont été délocalisés pour permettre aux élèves finalistes de ces zones de ne pas perdre leur année scolaire selon les autorités scolaires. Avec Rosalie Zawadi, voyons comment fonctionnent les centres du territoire Nyiragongo délocalisés dans la ville de Goma.
Dans ces territoires proches de la ville de Goma, on note une augmentation de 20% du nombre d'élèves finalistes. Une augmentation due à la présence d'élèves déplacés venus de Kibumba, Rumangabo et Rutshuru pour passer cette épreuve. Les sous-provèdes du territoire de Nyiragongo, Shukuru Kisuka, expliquent que dans sa juridiction, ce sont 10 310 élèves finalistes du primaire qui participent et parmi eux, 1 225 enfants déplacés. Ils regrettent les conditions difficiles dans lesquels ces enfants ont préparé cet examen.
Ces examens vont se passer dans un contexte de l'insécurité. En fait, vous savez, la partie Rusayu et la partie Mouja, les deux parties sont tellement insécurisées. C'est toute l'étendue du territoire. Et je pense que ces enfants, bien qu'ils soient déplacés, mais ils sont quand même en ordre avec la matière et ils sont à niveau d'affronter ces examens ici. Nous sommes fiers d'accueillir ces enfants et de les encourager. Ils ne doivent pas croire qu'ils sont déplacés. Ils sont aussi élèves comme tant d'autres.
Priska Luanda, conseillère du gouverneur militaire en matière d'éducation, reconnaît la situation et indique que le gouvernement provincial a fait tout son possible pour que chaque élève finaliste du primaire en province passe son examen. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Autre sujet d'actualité, dans la même province du Nord Kivu, un peu plus de la moitié de la population de Borémana regagne le village jusqu'au encore ce week-end. C'est au sud du territoire de Masisi sur l'axe routier Minova-Sake-Goma. Ses habitants se déplaçaient entre autres vers Minova et environ à la suite d'une avancée des rebelles dans la zone. Ce retour est motivé par l'opération menée ces derniers jours par l'armée dans la zone. C'est ce que dit la société civile. Bernadette Nyangi.
Ce mouvement de retour des populations à Borémana, qui a commencé il y a environ un mois, s'est accentué après une patrouille et opération de traque des rebelles autour de l'axe Minova-Borémana, indique le président de la société civile locale. Floribert Moussangagna encourage l'armée à poursuivre ses opérations sans relâche.
À plus de 50%, la population est en train de retourner parce que l'ennemi, il est, c'est vrai, à quelques kilomètres de la cité. Mais les forces loyalistes, ils ont avancé vers la colline de Ndumba pour contenir l'ennemi là-bas. Je vais demander vraiment au gouvernement de ne pas toujours tarder parce que lorsqu'il tarde comme ça, il permet encore à l'ennemi de se réorganiser davantage.
Lors de son passage dans la zone le week-end, le gouverneur militaire Peter Chirimwami a été plus rassurant.
La population veut voir la route ouverte entre Weremana et Sake. Nous y travaillons. Ce qu'on peut leur dire, c'est un peu de la patience. C'est pour cela que nous sommes là.
Ce mouvement de retour est également constaté au niveau de la cité de Sake, toujours au sud de Masisi. Toutefois, ces retournés estiment que la présence des rebelles tout autour de Sake et Weremana reste un autre sujet d'inquiétude. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Nous parlons à présent de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Nord Kivu, les FRDC avec le soutien des casques bleus de la MONUSCO ont repris le contrôle dimanche soir de quelques localités de Kanyabayonga. C'est après des violents combats qui opposent depuis une semaine l'armée aux rebelles du M23 autour du contrôle de cette commune rurale stratégique du territoire de Lubero. Martial Papi Mukeba pour d'autres détails.
Les hauteurs de Kanyabayonga reprises par les FRDC sont Kilambo et Kabasha vers Maïsafi où l'armée et les rebelles du M23 se sont affrontés toute la journée de dimanche, ce qui permet, selon des sources militaires, d'ouvrir pour l'instant les cercles du périmètre de Kanyabayonga qui étaient, depuis quelques jours, sous pression de l'avancée du M23. Jusqu'à ce lundi midi, les FRDC poursuivaient avec des frappes à l'artillerie de certains dispositifs des rebelles ciblés sur l'axe Kanyabayonga-Rwindi. Ces frappes cibleraient des renforts du M23 qui continuent d'être déployés dans la zone pour une contre-offensive rebelle, rapportent nos sources. Dans un communiqué publié dimanche, l'AFC M23, soutenu par les Rwanda, accuse la MONUSCO de soutenir les FRDC. La rébellion indique que ce soutien des casques bleus inclut la surveillance par drone. Des sources sécuritaires rapportent que le déploiement depuis 4 jours des casques bleus de la MONUSCO à Kanyabayonga en soutien au FRDC est mal perçu par les rebelles. Les soutiens onisiens auraient contribué au changement du rapport de force pendant les combats en faveur des FRDC, confirment nos sources. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Dans le sud Kivu à présent, un sit-in a été organisé ce lundi devant deux bureaux des centres d'impôts synthétiques Ouvira 1 et 2 dans la ville d'Ouvira. Les petits commerçants et des opérateurs économiques membres de la FEC, Fédération des entreprises du Congo, dénoncent ce qu'ils qualifient des tracasseries fiscales entretenues par ce service. Selon leur porte-parole, Jean-Pierre Zembe, plus d'une dizaine des membres de la FEC Ouvira ont vu leur compte bancaire gelé à la TMB à la suite du non-paiement de la TVA. Le responsable du centre d'impôts synthétiques d'Ouvira 2 réfute toutes ces allégations et dénonce une manipulation. Fiston Goma.
Le chef du centre d'impôt synthétique DGI Ouvira 2, Jean-Marie Vianney Kalingi, affirme que sur 300 opérateurs économiques identifiés dans son secteur, 23 seulement ont été assujettis au paiement de la TVA. Après sensibilisation, 17 parmi eux se sont acquittés de leurs obligations fiscales en payant la taxe sur valeur ajoutée. Parmi les récidivistes figure le président de la FEC et ses adjoints.
Dire que c'est un problème de tous les opérateurs économiques, c'est un faux problème. On n'a pas fait la sensibilisation pour tous les opérateurs, on a fait la sensibilisation pour les 23 concernés.
Le président de la FEC, de son côté, a porté l'affaire en justice pour vice de procédure dans le gel de ses comptes bancaires à Ouvira comme à Bukavu. Son secrétaire exécutif parle d'un acharnement visant à ramollir les climats des affaires à Ouvira.
Le premier conséquence, c'est que le prix va augmenter sur les marchés. La deuxième conséquence est que l'opérateur économique qui est soumis au paiement de TVA va vendre moins plus que l'opérateur économique qui est à côté de lui, lui qui n'est pas soumis au paiement de la taxe TVA.
La direction provinciale de la DGI Sud Kivu a dépêché une délégation pour engager un dialogue ce mardi avec les manifestants. Jusque ce lundi soir, commerces, boutiques, dépôts, magasins sont restés fermés. Les manifestants, parmi lesquels les acteurs de la société civile, promettent de poursuivre leur mouvement malgré l'œil vigilant de la police. D'Ouvira, Fiston Goma Mayaba, la Radio Okapi.
Avant de passer à la page internationale, dans la province de la Tchopo, l'archidiocèse de Kisangani est préoccupée par l'assainissement de l'environnement. L'évêque auxiliaire en a donné la preuve ce samedi en mobilisant les fidèles chrétiens au ramassage des déchets et au balayage des environs immédiats du marché central. Parmi les participants à cette activité, des professeurs d'université, des fidèles chrétiens ainsi que le coordonnateur provincial de l'environnement. Qu'est-ce qui a poussé l'église catholique de Kisangani à s'investir aux travaux d'assainissement? Reportage de Jacques Mukonkole.
Mouillé en soutane noire et coiffé de sa calotte, Monseigneur Léonard Ndjadin Djaté a mis au-dessus de son costume épiscopal un gilet vert aux rayures. Balai long aux mains garnies des gants, il a balayé et ramassé des sachets et autres ordures le long de la route et dans quelques avenues du marché. À ses côtés, quelques fidèles mobilisés pour cette fin. Selon lui, l'archidiocèse de Kisangani répond à l'appel du pape François pour la protection de notre maison commune, à savoir l'environnement. Il demande à la population de poser des gestes verts.
Ce sont des gestes qui vont dans le sens de la protection de la nature et qui vont dans le sens de humanisation de relations interpersonnelles et par rapport aux dirigeants, c'est lancer ce plaidoyer, un message fort pour qu'ils prennent à cœur la problématique écologique, qu'ils mettent des moyens pour assainir notre ville.
Cette initiative est saluée par bon nombre de personnes, à l'instar du coordonnateur provincial de l'environnement. Félicien Malou promet la contribution officielle de son service à ce projet.
Il faut de leur trouver un site aussi pour les décharges afin que ces déchets soient traités et pourquoi pas recyclés.
Signalons qu'en rapport avec cet appel du pape François, l'archidiocèse de Kisangani va bientôt créer un bureau diocésain pour la pastorale écologique. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Alors que le décompte des voix se poursuit au lendemain des législatives en Afrique du Sud, certains Sud-Africains manifestent leurs attentes par rapport au scrutin. Après une journée de vote pour les législatives en Afrique du Sud, l'heure est au dépouillement dans certaines régions du pays. Les premiers décomptes donnent à l'ANC un peu plus de 42% des voix avec seulement plus de 16% des votes dépouillés et déclarés.
L'invité.
Notre invitée s'appelle Annika Moigna Mananassé, présidente de la Société Congolaise de la Pratique Sage-Femme. Elle nous parle de la promotion de l'hygiène menstruelle, activité menée par les sages-femmes de Kindu avec l'appui de l'UNFPA. Elle s'entretient avec Florence Kizalunga.
Madame Annika Moigna Mananassé, bonjour.
Bonjour Madame la journaliste.
Au cours du mois de mai, nous avons vu les sages-femmes dans différents coins en train de sensibiliser la communauté. C'est quel type de personnes que vous sensibilisez et vous les sensibilisez sur quoi?
Oui Madame la journaliste, nous avons sensibilisé plusieurs catégories de femmes. Nous avons sensibilisé les femmes handicapées, les femmes qui sont dans des maisons de tolérance, les jeunes filles pour l'hygiène menstruelle et aussi les femmes enceintes sinistrées, nous les avons aussi sensibilisées parce que quand leurs maisons sont inondées, parfois elles négligent même d'aller faire des consultations prénatales parce que parfois elles donnent des raisons, elles sont tourmentées par où chercher l'endroit pour quand même déménager et tout ça, ça les met dans les distractions.
Et ces femmes enceintes que vous avez sensibilisées, celles qui ont été victimes de l'inondation, vous vous êtes seulement limité à la sensibilisation ou bien vous les avez appuyées aussi avec quelque chose?
Non, nous avons donné quelque chose. Vous voyez comme elles ont presque perdu. Il y a d'autres histoires qui sont parties avec de l'eau. Et c'est pourquoi nous leur avons aidé avec des kits d'accouchement pour leur aider. Parfois, l'accouchement peut leur trouver à n'importe où, qu'ils soient quand même à mesure de se protéger, de protéger aussi leur bébé.
Je vous ai entendu parler pour les filles, c'était l'hygiène menstruelle. Maintenant, pour les femmes enceintes, vous les avez sensibilisées sur quoi?
Pour les femmes enceintes, nous leur avons sensibilisé sur le signe de danger, comment elles peuvent d'abord connaître les signes de danger, si et seulement si ces signes arrivaient chez la femme enceinte, comment elle peut se prendre en charge, c'est-à-dire comment elle peut prendre des décisions bien avant pour aller voir le personnel soignant, pour aller se faire consulter, que ça ne puisse pas avoir de l'impact de sa vie et voire même la vie de son bébé.
Alors, c'est ce kit que vous donnez, c'est par vos contributions ou bien vous avez eu un partenaire?
C'est grâce à l'appui de l'INFPA que nous avons réaliser cette activité.
Parlant de l'hygiène menstruelle, nous savons que ce sujet aujourd'hui est considéré comme un tabou. Comment vous faites pour chercher la promotion de l'hygiène menstruelle?
C'est pourquoi nous avons jugé bon d'associer aussi les parents des filles pour essayer un peu de leur parler, de ne pas considérer la menstruation comme des tabous. Parce que si on continue à prendre ça comme un tabou, on est en train de perdre la génération actuelle. Nous avons trouvé que les parents n'ont plus les temps vraiment de se mettre à côté de leurs enfants. Mais à partir de cette sensibilisation, nous avons trouvé que vraiment c'était utile de leur sensibiliser parce que beaucoup de parents évitaient de tout dire à leurs enfants. Or, en cachant aussi d'autres histoires, on est en train de perdre de la génération actuelle.
Madame, demandant aux parents de s'intéresser sur l'hygiène menstruelle, est-ce qu'il y a des dangers quand une fille ne sait pas bien se comporter pendant sa période?
Oui, il y a des dangers, madame la journaliste. Nous avons expliqué en long et en large aux parents parce que quand la fille ne sait pas bien s'entretenir, elle est la sale et encore si nous voyons bien les sangs vraiment favorisent la culture des microbes. Et si la fille ne sait pas faire l'hygiène, elle risque de s'infecter. Et en s'infectant, en étant trop jeune, quand elle commence à contracter des infections à bas âge, et les infections là ne sont pas bien soignées, elle risque de se créer d'autres problèmes. C'est pourquoi vous allez voir, il y a même d'autres femmes qui souffrent de problèmes de stérilité. Parfois, on ne peut pas comprendre, ça peut venir d'où. Mais le manque d'hygiène aussi, et s'il y a résistance des infections, résistance des microbes, à la longue, ça peut créer même des stérilités chez la femme. Et c'est pourquoi, si la fille commence à faire de l'hygiène à bas âge, et savoir comment elle peut se prendre en charge pendant qu'elle est dans sa période de menstruelle.
Eh bien, voilà qui met un terme à cette édition de journal préparée par l'ensemble de la rédaction. Deps invite à assurer la prise des soins et la mise en onde. Et Billy Van Loutouba vous la présenter.